La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour continuer d'explorer avec nous la galaxie Brontë, avec aujourd'hui un focus particulier sur l'une des sœurs, Émilie. Quatre enfants, géniaux, un frère, trois sœurs, une famille mythique, marquée par les deuils, la disparition très tôt de leur mère, puis de deux de leurs sœurs aînées, et la tuberculose qui les atteint les uns après les autres. Voilà le cadre tragique qui a rendu si impressionnant le destin de cette famille, qui s'est naturellement tournée vers la fiction, vivant même dans des mondes inventés, et frôlant parfois la perte de contact avec le réel. De cette famille, nous avons parlé hier, c'était avec Dominique Jean, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Jeudi, avec Raymond Bellour, nous tâcherons de mieux saisir l'origine des écrits des Brontë à travers ces jeux d'enfants qui ont servi de point de départ à leur créativité littéraire. Enfin, demain, nous nous arrêterons sur le roman Jane Eyre et sur la figure de Charlotte, celle qui a connu le plus de succès de son vivant. Dominique Barberis, qui a rédigé une préface à ce livre, sera mon invité. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à Émilie Brontë, la plus mystérieuse peut-être de la fratrie et dont le roman Les Hauts de Hurlevent a beaucoup inspiré les femmes écrivains, parmi elles Lydie Salvert, prix Goncourt pour Pas pleurer en 2014, mais également l'écrivaine Christine Jordis. Je les reçois aujourd'hui respectivement en première et seconde partie. Mais à ces deux admiratrices des Hauts de Hurlevent, il faudrait ajouter Yasmina Reza. Elle-même l'avait confiée à Arnaud Laporte, c'était en 2011.
C'est pour moi le livre peut-être le plus fascinant de l'histoire de la littérature. Parce qu'il y a une énigme profonde là-dedans. Elle s'est écrite par une fille qui a 26 ans, qui, selon les historiens, ne sait pas de quoi elle parle. Enfin, elle le sait intimement et mieux que quiconque, mais qui ne l'a pas expérimenté. Donc pour un écrivain, c'est très intéressant. Ça prouve bien que l'expérimentation ne sert absolument à rien, qu'il y a donc un aspect très devinatoire dans l'écriture, très prémonitoire. Il y a une science, il y a une connaissance de l'être, de la vieillesse, de la vie, de la mort, de toutes les passions, de toutes les fonctions humaines, qui n'a strictement rien à voir avec l'expérimentation. Donc ce livre en est la quintessence pour moi. Personnage d'Esclif, il y a peu de comparaison en littérature d'un personnage aussi puissant et aussi fantasmatique et aussi mythologique. Donc ce que cette fille réussit à faire dans ce livre est quand même stupéfiant.
Bonjour Lydie Salvert.
Bonjour.
C'est vrai qu'il y a du mystère dans cette capacité créatrice d'Émilie Brontë, comme si elle n'avait pas besoin d'avoir beaucoup vécu pour pouvoir tout dire. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ?
Peut-être, mais en même temps, elle est enfermée dans ce village, perdue au bout du monde, mais ce village, c'est le monde. C'est ça qui est paradoxal chez elle. C'est que sa domestique, Tabby, lui raconte le monde. C'est qu'elle va à la librairie, elle va faire les courses, elle fait le ménage. Elle est dans le monde, elle n'est pas dans une bulle, elle est dans le monde. Mais dans le retirement, par rapport au monde mondain, par rapport au monde littéraire, par rapport au monde des grandes villes, etc.
Mais alors, est-ce que vous croyez que de manière plus générale, en littérature, il n'est pas besoin de savoir, d'avoir vu de ses propres yeux pour toucher juste ?
La preuve que non, puisque on sait qu'Émilie Brontë n'a pas vécu d'histoire amoureuse. Or, elle est capable d'écrire la plus grande histoire d'amour, selon Georges Bataille, qui a existé. C'est la preuve qu'elle n'a pas eu à vivre l'amour, en tout cas, pour en décrire la passion.
Alors on va parler aussi de l'amour et de Georges Bataille au cours de cette émission. Lydie Salvert, est-ce que Pour vous, cette femme est un modèle, comme il semble qu'elle soit un modèle pour beaucoup de femmes écrivains.
Oui. Elle est exemplaire. D'abord parce que elle remet en cause tout ce qui est intouchable dans cette Angleterre victorienne. La famille, considérée comme le lieu de la protection, de la bienfaisance, etc. Elle en décrit la violence extrême. Elle s'en prend à l'inceste, qui est le tabou des tabous, puisque Heathcliff et Cathy ont vécu comme frères et sœurs et vont ensuite s'aimer d'amour.
C'est un inceste platonique.
Oui, bien sûr.
Mais tout de même.
Mais quand même. Et puis, elle donne vie à un personnage Heathcliff qui est la révolte même, qui est la révolte absolue, qui refuse tout ce qui vient trahir l'esprit d'enfance, tout le monde des adultes. Et à ce sens, elle est exceptionnelle. Surtout lorsqu'on sait qu'elle vit loin de tout ce qui fait le monde.
Alors elle est tellement exceptionnelle que vous avez ouvert par elle votre recueil d'essais, oui. Cette femme parue aux éditions Perrin, c'était en 2013. Vous présentiez, je vous cite, cette allumée.
Cette folle.
Cette folle. Oui.
Le terme ici étant évidemment infiniment affectueux. En tout cas des femmes qui comment dire, qui faisait bouger toutes les règles sociales. Un amour donc, celui de Cathy, Heathcliff, qui se fiche des appartenances sociales, qui les dépasse. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
En fait, vous la mettiez en parallèle avec Sylvia Plath,
oui,
avec
oui.
Colette, avec Marina
Tsvetaeva,
avec Virginia Woolf.
Oui.
C'est ça qu'elles ont en commun? C'est justement d'être folle et de mettre un coup de pied finalement dans toutes les conventions sociales.
Oui. Elles ont une audace dont elles n'ont pas conscience, je crois. Elles ne prétendent pas, aucune de celles que vous avez citées, être féministes, par exemple, en dehors de Woolf. Elles sont, par nature, en révolte contre le monde littéraire qui est un monde masculin. Et elles ont l'audace de s'autoriser écrivaine.
Alors la révolte, évidemment, c'est très important pour vous aussi, puisque c'est une jeune fille révoltée qui a commencé à lire Emily Brontë quand vous avez 15 ans.
Oui.
Tombée sur ce roman, dans quelles circonstances?
Je suis pensionnaire au lycée Raymond Nave de Toulouse. Et je lis cette histoire d'amour que je veux mienne. Je veux un amour égal à celui de Cathy Heathcliff, c'est-à-dire absolu.
Mais pourtant, c'est un amour qui n'est pas facile, ce n'est pas un amour agréable.
Mais je ne mesure pas du tout, je pense, à l'époque, je dois avoir 14-15 ans, l'audace, la singularité, la liberté inouïe d'Emily Brontë, et le fait qu'elle questionne le mal, comme dit Bataille, comme jusqu'à présent, personne, je crois, ne l'avait fait, puisqu'elle dit, en décrivant Heathcliff, elle dit notre part ténébreuse, notre part destructrice, les pulsions de mort qui nous animent, et elle le dit bien avant Freud. Oui. Et en ça aussi, elle est exceptionnelle.
On pourra revenir sur ce point qui est passionnant. Est-ce que vous croyez que quand on a 15 ans, on n'est plus à même de percevoir ce que nous dit Emily Brontë? Vous parlez de la puberté virulente qui vous étreignait à cet âge-là et qui vous faisait ressentir plus fortement le sens de ce livre. Et puis il y avait les garçons aussi, qui n'étaient évidemment jamais tellement à la hauteur de ce fameux Heathcliff. Oui. C'est ça l'idée.
Mais ce que disent les deux personnages des Hauts de Hurlevent, c'est que l'enfance est un paradis dont ils n'arrivent pas à faire le deuil. Ni l'un ni l'autre. Ils courent toute leur vie après cet esprit d'enfance, ce monde d'enfance qui se fiche, pour le coup, des institutions, des statuts sociaux, des appartenances, etc., etc. Ils ne pourront se rejoindre que dans la mort. C'est en cela que c'est une tragédie, l'un et l'autre.
Alors intéressons-nous plus particulièrement à ce personnage de Heathcliff.
Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff, Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerai d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous. Source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours, toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons d'Emily Brontë avec Lydie Salvert. Alors, ce qu'il y a évidemment de très passionnant quand on lit Léo de Hurlevent, c'est le sentiment qu'on nous décrit un amour qui n'est pas un amour habituel. Et d'ailleurs, on vient de l'entendre, c'est un amour qui est nécessaire, mais qui est source de peu de plaisir et de joie en apparence. Oui. Est-ce que vous pourriez essayer de caractériser un petit peu ce que cet amour a de si particulier ?
D'abord, c'est un amour qui naît d'une complicité infinie de l'enfance. Un amour donc entre une enfant bien née, hein, ça c'est important de le dire, et d'un enfant
trouvé.
Le père a trouvé perdu dans les rues de Liverpool et qu'il ramène à la maison. Un bâtard donc. Et l'enfance de ces deux est heureuse dans le livre, je crois me souvenir. Elle est heureuse, elle est complice, elle ne souffre pas le tourment. Elle va souffrir le tourment dès lors que Cathy va devenir en quelque sorte adulte, c'est-à-dire séduite par les manières, les belles manières de Linton, je crois. C'est ça son
exactement.
C'est oui, Linton, oui. Qui lui aussi est bien né, qui fait partie d'une famille.
Et même encore mieux d'ailleurs, c'est vraiment la famille la plus riche de la région.
Voilà. C'est là que les choses se compliquent, évidemment, lorsque l'un et l'autre sont confrontés à la chose sociale.
Et alors, vous dites que Heathcliff, dont on pourra dire tout à l'heure ce que signifie son nom, Heathcliff, c'est vous. Alors, on pourrait se dire, finalement, Lydie Salvert, c'est Catherine. Mais pourquoi est-ce que Heathcliff, c'est vous, plutôt que Catherine?
Oui, je suis très entêtée. Non, mais je me garderai bien. C'est une des choses qu'on écrit dans un livre et j'ai un peu honte d'ailleurs d'avoir à la redire ici. Évidemment, Heathcliff est autrement plus tragique que moi.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le ressentiez quand vous l'avez découvert à 15 ans.
Ça part de révolte, mais j'ai une fraternité pour cette révolte de Heathcliff contre toutes les compromissions du monde, quoi que j'en fasse, évidemment.
Qu'est-ce que ça veut dire alors, ce nom de Heathcliff ?
Heathcliff, c'est lande ou bruyère ? C'est lande.
Je crois que c'est la bruyère.
C'est la bruyère. Je ne sais plus si c'est la lande ou la bruyère.
Nous vérifierons ça en seconde partie avec Christine Jardis.
C'est les deux. Donc la douceur.
C'est les deux.
La bruyère, c'est rose. Au printemps, ça fleurit. Et Cliff, falaise. C'est-à-dire que le seul nom de Heathcliff concentre à la fois la tendresse enfantine et la violence tragique. À la fois le bien qu'il veut à Cathy et le mal qu'il veut à Cathy et aux autres lorsqu'il décide de se venger. Parce que c'est un personnage d'une noirceur rare.
Alors on peut raconter peut-être rapidement la suite de l'histoire. Donc on a dit que c'est un jeune garçon trouvé, ramené par Monsieur Earnshaw dans sa famille. Oui. Au début, les enfants qui sont là sont un peu étonnés, le garçon en tous les cas. Donc Cathy se prend d'amitié puis d'amour pour lui. Ils s'entendent évidemment très bien. Et puis, grandissant, Cathy finalement décide qu'il est plus raisonnable de se marier plutôt avec les bourgeois de la région, donc Linton en l'occurrence, et c'est là que Heathcliff va développer une espèce de rancœur terrible.
Oui, un désir de se venger infernal qu'il va mettre à bien puisqu'il épousera par vengeance la sœur du mari de Cathy.
Donc ce garçon
qui aura un enfant qu'il maltraitera par la suite,
c'est ça.
Puisqu'il est l'enfant de l'union la plus abjecte qui soit.
Donc ce garçon,
il va jusque-là.
Qui était en effet la bonté brute, oui, devient le contraire.
Et la tendeur, oui.
Je vous propose d'écouter un nouvel extrait des Hauts de Hurlevent, lu par Solange Boulanger.
Je cherchais et découvris bientôt les trois pierres tombales sur la pente près de la lande. Celle du milieu, grise et à moitié ensevelie sous la bruyère. Celle d'Edgar Linton, ornée seulement de l'herbe et de la mousse qui croissait à son pied. Celle de Heathcliff, encore nue. Je m'attardais autour de ces tombes, sous ce ciel si doux. Je regardais les papillons de nuit qui voltigeaient au milieu de la bruyère et des campanules. J'écoutais la brise légère qui agitait l'herbe. Et je me demandais comment quelqu'un pouvait imaginer que ceux qui dormaient dans cette terre tranquille eussent un sommeil troublé.
Et pourtant, le sommeil est particulièrement troublé chez les habitants de Wuthering Heights. Soit qu'ils ont quelque chose à se reprocher, soit qu'au contraire, ils sont des victimes, soit qu'ils sont les deux, Lydie Salvert. Parce que, vous avez commencé de le dire, c'est en effet la question du mal,
oui,
qui se pose dans ce roman.
Oui, oui.
Et Bataille, d'ailleurs, qui a analysé ce livre...
Oui,
je disais aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sans doute la chose la plus inouïe de ce livre. C'est que cette jeune femme qui a 35 ou 38 ans, qui sera toute sa vie d'une rigueur morale absolument extraordinaire, qui sera dévouée à son frère comme nul ne l'a été dans la famille, bref, impeccable moralement, saura comprendre la noirceur, d'abord en étant le témoin de la déchéance de son frère, qui était promis au plus beau des avenirs,
Branwell,
et qui va tomber dans l'ivrognerie, la décrépitude, la toxicomanie, etc. Et elle va assister à cette lente destruction de son frère. Et on se dit peut-être que c'est une des choses qui l'a amené à regarder ce penchant vers la destruction chez un autre avec cette précision et cette justesse.
Mais alors pour revenir à Bataille, il faut citer le nom de cet essai, La littérature et le mal.
Oui.
Et c'est de Bataille lequel il parle.
Oui, mais je voulais le relire, je ne l'ai plus trouvé dans ma bibliothèque avant de venir. Mais je sais qu'il questionne le mal dans 5 ou 6 œuvres, je crois, ou plus, et notamment dans celle d'Emily Brontë, qu'il lit avec l'érotisme. La vie et la mort se rejoignant dans l'érotisme. Il a une phrase que j'ai oubliée, très belle, pour le dire. Puisque les deux vont vivre, au fond, vont réaliser leur amour dans la mort. Mmh. C'est l'amour à mort au sens littéral du terme, entre les deux.
Alors, on va écouter un extrait d'un film qu'on a déjà entendu un petit peu hier, un film de André Téchiné, qui s'appelle Les Sœurs Brontë, parce qu'André Téchiné avait bien saisi justement cet aspect maléfique chez les Sœurs Brontë et le frère.
Charlotte m'a donné les critiques de ton livre. Tu veux les entendre ?
Oui.
L'Amérique ne vaut pas mieux que l'Angleterre. Écoute ça. L'auteur des Hauts de Hurlevent semble croire que la perversité de l'esprit humain est faite de la somme de plusieurs férocités animales. Il a donc choisi les traits les plus frappants du loup, du chacal et du chat sauvage pour créer la brute démoniaque qui sera le héros de son roman. Je continue.
Oui.
Les grands écrivains réussissent infiniment mieux leurs effets avec une plus grande économie de moyens.
C'est assez, je vois. Merci. Tu peux rendre ça à Charlotte.
Isabelle Huppert dans cet extrait.
Et qui dit combien la critique littéraire de l'époque fut choquée par ce livre et qu'elle trouva grossier, pervers, bref, tout ce qu'on entend est pire.
Oui, c'est important de le dire ça parce
mais
que
bien sûr.
Si Jenner de Charlotte Brontë a été finalement reçue assez facilement,
oui.
Ce n'était pas le cas
mais bien sûr,
de elle, Wuthering Heights.
Elle scandalise.
Heights.
Précisément pour tout ce que nous avons dit, puisqu'elle s'en prend à peu près à tout ce qui est intouchable dans cette Angleterre puritaine, conservatrice et rigide.
D'ailleurs, elle a eu du mal à se faire éditer. Elle a fait le tour des éditeurs, Lydie Salver, Emily Brontë, il me semble.
Oui, je ne sais plus comment ça se passe. Je crois qu'elle est tirée à 200...
50 exemplaires
je
seulement.
Je crois, oui. Mais ça lui est indifférent, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Elle se moquait de la gloire.
Et puis elle a,
selon la légende.
Elle a dû encaisser les coups. Vous dites selon la légende, vous pensez qu'en réalité, elle ne s'en moquait pas. Qui s'en moque, c'est ça?
Mais c'est peut-être.
Alors, elle a reçu des coups, je commençais de le dire. Elle a reçu des lettres qui étaient des coups, et notamment celle de ce petit poète.
Ah oui.
Vous avez en tête bien ce qu'il lui disait
qui dit à Charlotte, je ne sais pas si c'est du même que nous parlons, la littérature, madame, n'est pas une affaire de femme.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Oui.
C'est terrible.
Ça dit bien l'esprit de l'époque. Mm. Et ça dit bien, en même temps, l'audace de ces femmes qui s'autorisent l'écriture.
Plus les femmes se consacrent au devoir qui leur incombe, moins elles ont le plaisir de le pratiquer, même au titre d'un tarlan et d'un divertissement. Voilà, il faut
elle
se concentrer sur ses devoirs.
Elles n'avaient aucun droit à l'époque, les femmes. Elles étaient absolument dépendantes des familles et des époux.
Hein. Mais la reconnaissance, elle viendra tout de même, Lydie Salver, pour ce livre, évidemment.
Mais grâce, entre autres, à Virginia Woolf, quasiment un siècle après. Mmh. Qui ira se recueillir sur la tombe, comme font, je crois, beaucoup d'écrivains qui aiment cette femme.
Et qui louera l'ambition gigantesque de celle qui, regardant vers un monde divisé en un gigantesque désordre, sentit en elle le pouvoir de l'unir en un livre. C'est la citation de Virginia Woolf.
Oui, magnifique.
Dans la compagnie des auteurs qui chante donc Wuthering Heights. C'est très difficile à prononcer, mais vous m'avez confié, Lydie Salver, que vous ne le prononciez pas correctement non plus, donc je me sens mieux du coup.
Oui, je me sens moins seul.
Enfin, c'est quand même une chanson. Vous trouvez que ça ressemble à l'esprit de l'esprit du livre ? Les Hauts de Hurlevent par Kate Bush, ça vous rappelle le livre ?
C'est beaucoup plus Guilleret, me semble-t-il, que le livre.
Ah oui, effectivement.
Cette mélodie.
N'est pas très Guilleret. Vous racontez, Lydie Salver, dans votre portrait que vous avez fait d'Emily Brontë, comment elle a tout mis en œuvre tout au long de sa courte vie pour écrire ce chef-d'œuvre absolu. On a l'impression qu'elle s'y prépare depuis toujours.
Oui, et entre autres, ce qui m'émerveille, c'est son refus de l'institution scolaire. Comme je suis, j'ai été pédopsychiatre dans une autre vie, j'ai vu combien souvent le refus scolaire était une preuve de caractère fort et de révolte par rapport aux institutions. Emily Brontë, dès qu'elle est les rares fois, je crois qu'elle va essayer par trois fois, de s'adapter à une institution scolaire, elle la rejette avec une violence extraordinaire. Et ça, pour moi, ça dit, ça révèle Léo de Hurlevent peut-être plus que toute autre chose, mais pas seulement. Mmh. Pas seulement.
Et ce village de Haworth, et on terminera là-dessus, puisque ce sera largement le sujet de notre deuxième partie d'émission, mais pour vous, Lydie Salvert, quelle est son importance, cet endroit où vit la famille Brontë, mais qui est aussi la matrice de tout ?
Le village et les paysages alentours, puisque elle passait des heures, semble-t-il, à arpenter la lande, elle aimait infiniment la campagne, les animaux. On ne l'a pas dit, elle avait une passion pour les animaux. Et un de ses chiens pleurera pendant 4 jours devant sa porte. Lorsqu'elle mourra, c'est une chose qui me touche infiniment.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Lydie Salvert d'être venue nous parler aujourd'hui d'Emily Brontë. Je rappelle que votre ouvrage « Cette femme » dans lequel vous parlez d'elle a paru en 2013 et qu'on peut se le procurer, qu'on doit sans doute le faire d'ailleurs aux éditions Perrin. Dans un instant, nous allons accueillir Christine Jordis pour parler notamment du paysage des Brontë, mais tout de suite, c'est en compagnie des revues. Nous sommes rejoints par Marin de Viry de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Marin.
Bonjour.
Vous êtes lecteur, vous, des Brontë, et en particulier de Emily Brontë, Léo de Hurlevent.
J'étais en train de me dire que ça faisait trop longtemps que je ne les avais pas lus, et pourtant j'aime beaucoup la littérature, anglo-saxonne, féminine, d'une façon générale, Jane Austen, etc. Et là, je suis tout à fait sec, même si ce que vous avez dit, rappeler des vieux souvenirs.
C'est le principe de cette émission, justement, de donner envie de relire. Alors, vous venez nous parler aujourd'hui du sommaire de la Revue des Deux Mondes. Hein. C'est un numéro double, toujours le numéro avec François Fillon à sa une. Je rappelle que la Revue des Deux Mondes comporte 2 dossiers de fond ainsi que des recensions sur la vie littéraire. Alors, Marin, que peut-on trouver au sommaire de cette Revue des Deux Mondes?
Donc, au-delà du dossier que vous venez de mentionner, qui est un dossier d'actualité sur François Fillon, et du dossier sur l'origine des guerres de religion qui l'accompagnent, que Valérie Thorragnan a déjà présenté, et que d'ailleurs on aurait pu fusionner les deux thèmes à l'aune d'une actualité récente, si je puis dire, guerre de religion et François Fillon. Donc, la Revue des Deux Mondes fait son travail, c'est-à-dire de s'occuper de l'actualité littéraire et de l'actualité des idées. Elle fait ce travail depuis 1829, donc elle le continue. Alors, ce travail sur l'actualité littéraire, elle le fait d'abord en présentant un récit de Catherine Cusset, vous savez, qui a écrit L'autre qu'on adorait, Une éducation catholique, etc., récemment chez Gallimard. Ce récit s'appelle Un trop grand désir d'être aimé, et c'est l'histoire d'une colocation qui, contrairement aux colocations d'habitude, tourne bien, alors qu'elle aurait pu tourner mal, autour des querelles sur la consommation du chauffage électrique ou de la corvée de poubelle. Là, ça tourne bien. C'est l'histoire de la rencontre de deux femmes qui ne tombent pas du tout dans les pièges de la sororité, mielleuse, ni non plus dans les pièges du fantasme, et qui a quelque chose de très tolstoïen, si je puis dire, parce que c'est la lente émergence des puissances de la sympathie chez l'auteur, qui est donc, chez la narratrice, pardon, qui arrive donc dans cette maison et qui découvre une jeune américaine. Donc, cette nouvelle de Catherine Cusset est ensuite suivie d'une réflexion de Sébastien Lapac, qui est au Figaro littéraire et qui est critique, écrivain, essayiste. Et c'est une réflexion sur la carte postale, dont vous savez peut-être qu'on en envoie 300 millions en France.
Ah, on en envoie autant qu'avant, alors? Parce qu'on a l'impression que les cartes postales, comme le courrier en général, ça a tendance à disparaître.
Non, ça a régressé, mais enfin, d'après Sébastien, qui a forcément des sources fiables, c'est entre 300 et 350 millions en France. Et il reprend les analyses que les situationnistes, et notamment Guy Debord, ont fait de la carte postale, qui est un objet biface, image écrit, public privé, discret, massif. Et Debord disait des cartes postales que l'auteur d'une carte postale cache ce qu'il révèle en révélant ce qu'il cache. Voilà. Oh. Donc c'est un.
Ça dit beaucoup de choses. Donc
pour les situationnistes, c'était une sorte d'essaimage comme ça de communication ludique et potentiellement subversif, et c'est évidemment ce qui les intéressait. Bon, ensuite, il y a le journal de Richard Millet qui fait un parallèle entre Cervantes et Shakespeare, et notamment les deux anniversaires de 400e, les 400e anniversaire de leur mort, qui simultanés, ils sont morts la même année. Et en essayant d'analyser les raisons pour lesquelles Shakespeare a une part de voix dans les commémorations qui est largement supérieure à celle de Cervantes, et qui évidemment se termine par une analyse que fait Richard Millet de la littérature contemporaine, qui est assez peu favorable à, disons, aux conditions d'existence de la littérature romanesque contemporaine.
Nous, en tout cas, ici, on a parlé de Cervantes et on n'a pas parlé
de Shakespeare.
vous luttez contre l'oubli littéraire quand il est injuste aussi, Marin de Viry.
Alors ça, c'est la grande caractéristique de la revue. Alors là, c'est Frédéric Verger, qui est l'auteur de Dardenne, qui a été en finale au Goncourt il y a quelques années, 2-3 ans, je crois. Et alors, Frédéric Verger évoque Vladislas Kodasevitch, qui est un immense écrivain russe, qui a écrit notamment La Nuit européenne en 1927, qui est un énorme essai poétique. Cet homme qui était l'amant de Nina Berberova, qui était le maître, si je peux dire, de Nabokov, qui avait une quinzaine d'années de moins que lui, pour Frédéric Verger, un immense poète, tout simplement, et il est extrêmement regrettable qu'il ne soit pas dans nos bibliothèques au même niveau que, disons, le maître et Marguerite de Bulgakov, enfin, un de ces chefs-d'œuvre de la littérature russe de l'entre-deux-guerres.
Voilà. Rien à ajouter, Marin. C'est déjà pas mal, remarquez. Hein. Voilà, je pense que les auditeurs peuvent maintenant se procurer pour la suite la revue des deux mondes. Merci beaucoup, Marin de Viry. Des auteurs consacrés à Emily Brontë et à son roman Les Hauts de Hurlevent. Christine Jordis vient de nous rejoindre. Elle est écrivaine, je le disais, journaliste, éditrice chez Gallimard, spécialiste du domaine anglo-saxon. Et elle vient nous parler notamment des lieux d'Emily Brontë. Mais avant de l'entendre, je vous propose d'écouter ce que l'écrivaine Annie Lebrun disait du lieu où prend place Les Hauts de Hurlevent.
Cette histoire d'amour, dont Bataille disait qu'elle est la plus belle, la plus profondément violente histoire d'amour, eh bien cette histoire d'amour a pour titre le nom d'un lieu, où le désir est lié au lieu. Ou plus exactement, qu'il n'y a pas de désir qui ne soit la reconnaissance d'un lieu. Et c'est cette découverte que nous racontent les Hauts du Hurlevent à partir d'un lieu réel. Pas tout le monde sait qu'il s'agit des langues du Yorkshire, mais un lieu réel qui devient irréel jusqu'à être non pas seulement le décor, mais le corps, plus exactement le lieu où prend corps le déchaînement des passions. Et dès les premières pages du livre, le narrateur précise bien que le nom de Hauts du Hurlevent est une façon, même dit d'un provincialisme, qui exprime, je cite, le tumulte atmosphérique auquel le site est exposé quand souffle la rafale. Cependant, une fois qu'on l'a perçu, la force métaphorique d'un tel lieu est si évidente que c'est la notion de lieu en tant que telle qui disparaît, emportée dans le mouvement de la passion. Remember the mountains, the birds and their song. Remember them all for you know there's no world to come, there's no world to come.
Et bonjour Christine Jordis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors cette lande battue par les vents, c'est donc évidemment une métaphore. Et c'est une métaphore de la passion amoureuse pour Emily Brontë. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le paysage et l'amour », dans lequel vous parlez abondamment du paysage des hauts de Hurlevent. En même temps, la première question que j'aimerais vous poser, c'est ce paysage dans lequel finalement sont nés les Brontë. Est-ce que avant d'être le paysage de la passion, ce n'est pas le paysage de leur quotidien, Christine Jordis?
Oui, c'est pour ça que le mot de métaphore ne me convient pas tout à fait. C'est un paysage, j'ai pas très bien entendu ce que disait Annie Lebrun. Je fais une parenthèse, ça m'amuse néanmoins, parce que tandis que j'écrivais ce livre, je correspondais activement avec Annie Lebrun, dont j'avais admiré les châteaux de la subversion, et donc je cheminais en quelque sorte avec elle, pas sur la lande, mais dans la littérature.
Et vous aviez parlé avec elle d'Emily Brontë?
Oui, bien sûr, longuement, oui, bien sûr, j'ai parlé d'Emily Brontë et de bien d'autres choses avec elle, parce que ce livre, « Le paysage et l'amour », est fondée sur l'idée de la révolte, mais aussi, évidemment, sur quelque chose de beaucoup plus concret, qui est la réalité du paysage. Et le paysage de Haworth, où je suis allée...
Voilà, enfin quelqu'un qui prononce comme il faut.
Non, je ne suis pas sûre de prononcer comme il faut. Ça fait si longtemps que je n'ai pas prononcé. Ce livre, il date de 94, je ne sais combien de temps. Et puis Emily Brontë, j'ai vécu avec elle dans mon enfance, dans mon adolescence. Je l'aimais tellement que je ne voulais pas en entendre parler ni en parler. J'ai fini par me résoudre à aller à Haworth tard dans ma vie, tant j'avais peur que ce qu'il y avait de vivant en moi et qui touchait à Emily Brontë soit terni par l'idée de souvenir et de musée. Et quand j'ai vu Haworth, c'est effectivement une maison de poupées. Tout est petit, les pièces sont petites et on voit dans des petites cages de verre le peigne qui s'est échappé des mains d'Emily alors qu'elle voulait se peigner avant sa mort. On voit les chaussures de Charlotte Brontë qui sont comme des chaussures d'enfant. Enfin, tout ça n'a vraiment rien à voir et pourtant tout à voir avec Wuthering Heights, les hauts de Hurlevent.
Qu'est-ce qui vous a décidé à y aller alors, vous qui étiez réticente?
Eh bien parce que j'ai voulu écrire un livre que j'ai fait sur des années et des années sur l'Angleterre, qui est ma patrie réelle. Et pour cela, je ne pouvais pas faire l'impasse sur les Brontë. Donc je suis allée dans la lande. J'ai longtemps marché dans la lande quand j'étais petite, mais pas cette lande-là. Et j'ai vu que ce paysage était bien réel. C'est comme un mur de bruyère brune qui se dresse contre le ciel et qu'on voit donc, on voit ce mur de sa maison, la maison étant entre la lande et le cimetière, un cimetière qui dégorge de tombes car tout le monde mourait à l'époque, l'âge moyen était de 25 ans.
Mmh. Comme dans les mines finalement, ou dans les villes les plus... paupérisé finalement d'Angleterre,
oui,
on meurt à Haworth à 25 ans.
Mais Haworth n'était pas une ville nécessairement, n'était pas un village paupérisé. Mais le cimetière, et c'est très malsain parce qu'il est construit sur une pente et toutes les, il n'y avait pas d'égout, les ordures coulaient à travers la rue avec les émanations des cadavres et ce qui sourdait de la terre, vous voyez. Donc Emily Brontë a vécu au milieu de la mort, tout à fait physiquement. Et la lande était un refuge, tout ce qu'il y a de réel. Et elle la présente d'ailleurs non seulement dans le vent, la pluie, la neige, qui sont l'équivalent des personnages, car les personnages ou les forces de la nature, c'est la même chose. Mais elle la présente aussi dans la douceur du printemps, quand c'est Linton, le faible, le doux, celui qui est fait pour la société,
donc celui qui
s'y
se
promène.
Marie avec elle, c'est-à-dire le bourgeois.
Oui, alors il y a, vous savez, ce monde, comme le disait tout à l'heure Lydie Salvert, de la société qu'au fond nous refusons, parce que c'est un monde du compromis et de la laideur, d'une certaine façon, on le voit en ce moment. Et de l'autre, il y a le monde de la liberté et le paradis de l'enfance. Et ces deux forces qu'on voit chez Émilie se supposent l'une l'autre. La révolte ne serait pas si grande s'il n'y avait pas de l'autre côté le victorianisme et la moralité dont on ne peut douter qu'elle y souscrivait entièrement, ne serait-ce que pour se révolter absolument comme elle l'a fait contre ces lois. Voilà.
Alors vous n'avez pas dit, Christine Jordis, que le jour où vous êtes allée voir cette maison des Brontë, eh bien, il pleuvait. Il pleuvait
oui.
même
ah
à
Ah oui,
Cordes.
Vous avez vu ça, oui, oui. Il pleuvait, mais il pleuvait. J'ai connu beaucoup de pluie, même la pluie sous les tropiques, récemment d'ailleurs, et on ne voit même pas au travers sous les tropiques. Mais la pluie anglaise, la pluie à Bradford, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Vous avez l'impression que le paysage est fait de pluie, que les formes, c'est de la pluie concrétisée. Et je me suis dit, tant mieux, il n'y a pas de soleil. J'aurais pas voulu voir ce paysage dans le soleil, à la rigueur, dans les bourrasques de neige, parce qu'elles expriment Heathcliff. Heathcliff est une force de la nature, au même titre que le vent. Cette très belle phrase de Bachelard, on pourrait dire que le vent furieux est le symbole de la colère pure, de la colère sans objet et sans prétexte. Voilà, Heathcliff, c'est le vent, c'est la neige, c'est la tourmente, c'est la tempête. Donc la lande, elle est un paysage réel, mais elle est aussi un personnage. Et ça vous explique pourquoi, dans le roman, il est très peu question, finalement, de description de la lande, mais elle est toujours présente parce qu'elle est dans les personnages. La présence de Heathcliff, elle est submergente, elle est envahissante, elle est partout, et donc la lande est là.
Mais cette lande, elle peut être une prison aussi, parce qu'au début du roman, quand le narrateur arrive dans cette maison, Léo de Hurlevent, il pleut tellement qu'il ne peut pas retourner chez lui. Alors il demande à ce qu'on le raccompagne et personne ne veut le raccompagner. Donc cette langue, elle est mystérieuse parce qu'elle peut vous dévorer aussi. Elle peut sans doute vous assassiner. Donc elle est enfermante autant qu'elle est libératrice quand les enfants y jouent et y courent, Christine Jordis. Elle fait peur aussi,
cette langue. Elle assassine les doux qui ne s'y promènent pas. Linton et sa sœur, que Heathcliff va donc épouser pour la tuer progressivement, se promènent dans la lande, mais c'est une lande qui est proche de leur maison, proche de leur parc. C'est vrai que la lande fait peur. Et pourtant, Emily Brontë n'a jamais supporté de la quitter. Elle a été en pension 3 mois. Elle n'a pas pu tenir plus de 3 mois. La lande était pour elle la liberté et la vie. Elle ne pouvait pas concevoir de vivre hors de la lande. Donc la lande enferme, mais elle délivre. Ça dépend de votre personnalité.
Alors tout à l'heure, vous avez dit, Christine Jordis, que votre vrai pays, c'était l'Angleterre, ce qui nous a fait beaucoup de peine à nous.
Pourquoi
quand même, en ces temps de Brexit, on souhaiterait que vous restiez de ce côté de la Manche. J'espère que vous n'allez
pas
partir.
C'est gentil, merci. Oui.
Qu'est-ce qui est typiquement anglais, finalement, dans l'atmosphère et peut-être dans le paysage aussi que nous décrit Emily Brontë dans Léo
de Il faut avoir été dans le Yorkshire parce que pour moi c'est la plus grande région de l'Angleterre et là on comprend à quel point l'Angleterre est belle, à quel point la campagne anglaise sauvage, car vous avez aussi la campagne du Devon qui n'est pas du tout sauvage, mais à quel point la campagne sauvage qui traverse toute la littérature anglaise, car vous avez cette opposition entre le parc de Jane Austen et la campagne sauvage d'Emily Brontë, à quel point l'Angleterre est faite de cette douceur d'une part et d'autre part de cette sauvagerie que vous avez dans le Yorkshire. Maintenant, la lande de Haworth est encore quelque chose d'autre. C'est vraiment ingrat. Ça n'a rien de romantique ni de beau. Hein. C'est brunâtre. Il y a le rocher, les rochers, l'eau qui coule et le roc de Penistone. C'est Heathcliff. Le roc de Penistone fait rêver la petite Catherine Linton qui va donc sur qui va reposer la rédemption de tous ces personnages damnés. Ça la fait rêver, mais bien sûr, elle n'a pas le droit d'y aller. Le parc du manoir où elle vit est fermé par une grille, et cette grille, on ne doit pas la franchir, voyez. Donc, le rock de Pennystone, c'est encore une fois Heathcliff, qui est lui-même une concrétion de la nature. Il est le roc, il est l'aridité du désert, dira Catherine, pour essayer d'en détourner sa malheureuse belle-sœur, qui va tout de même se laisser fléchir. Il est la dureté du silex. Heathcliff, c'est une pierre dure, sans jamais faire de concessions, sans jamais d'atermoiement dans sa révolte et dans sa fureur. Et ça, je trouve ça extraordinaire, vraiment, ce roman.
D'autant plus, Christine Jordis, qu'il y a cette opposition que vous dessinez entre les hauts de Hurlevent, où le vent hurle, et la maison des riches bourgeois, les Linton, que va finir par intégrer Catherine, qui, pour le coup, est un endroit où les animaux sont des animaux domestiqués.
Oui, oui.
Où il n'y a pas de vent, puisqu'on est dans la vallée. Et on a le sentiment que tout le roman se retrouve géographiquement entre
dans la topographie,
ces deux pôles.
Oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Le manoir de la Grive est dans la vallée, et c'est très joli, la scène où le petit Heathcliff et la petite Catherine Earnshaw en approchent la première fois. Ils passent par un trou dans la haie, et à partir des plates-bandes, ils jettent un coup d'œil au salon, et là, ils voient des petites bougies. Mais la lumière de la bougie, elle est falote, en fait. C'est pas la bougie de l'arbre de Noël telle que nous la concevons, c'est une petite lumière faible, et les deux enfants, les deux Linton, se disputent. Alors que eux, les deux autres qui sont à l'extérieur, dans la lande dont on pourrait croire que sous la pluie et dans le froid, elle est l'enfer, pas du tout, eux-mêmes sont au paradis parce qu'ils s'entendent et parce qu'ils sont ils ont la liberté de l'enfance et de leur course, vous voyez. C'est une opposition qui est très marquée dans les lieux, effectivement.
Mais alors le péché originel, parce que on se dit que Heathcliff et Catherine, s'ils étaient restés dans leur lieu de naissance, enfin bon, Heathcliff n'est pas né là, mais dans le lieu de leur enfance, les hauts de Hurlevent, ils auraient vécu finalement une vie qui aurait pu leur convenir. Pourquoi, selon vous, quelle est la perversion à l'œuvre qui fait que Catherine, alors qu'elle est très amoureuse de Heathcliff, décide non pas de rester dans le vent de la passion, dans cette grande liberté qui règne à Wuthering Heights, et décide de descendre chez les Linton, chez les bourgeois finalement?
Je ne sais pas si elle est amoureuse au sens habituel du terme. Elle est Heathcliff, comme elle le dit. Heathcliff est son identité la plus profonde. Mais son identité, celle qui ne transige pas avec la société. Mais en surface, elle est comme nous tous. Elle s'accommode, elle compromet, et elle est attirée, non pas par la gloire, on le disait tout à l'heure, mais elle est attirée par la beauté de ce monde, la richesse, et surtout les honneurs et les flatteries qu'on lui donne. Donc, elle obéit à la part superficielle d'elle-même, et elle renonce, en laissant Heathcliff à la porte profonde, ce qu'il lui reprochera toujours, lui qui n'a renoncé à rien. Here's a song for lovers who don't care if they don't sleep. If dragonflies with heavy hearts cut the air like dots. Here's a song for lovers who won't ever have to weep. Clear-sighted eyes and uncried tears all dried out in the sun.
Compagnie des auteurs sur France Culture avec Christine Jordis. Nous parlons des Hauts de Hurlevent, ce roman qui nous met face aussi Christine Jordi, ça, nos contradictions,
vous êtes obligée
de se positionner finalement vis-à-vis de ce roman.
Absolument. Nous sommes, c'est pourquoi j'admirais tellement Émilie Brontë, c'est que c'est quelqu'un qui a eu le courage de tenir jusqu'au bout dans son intransigeance et son exigence en face de la liberté. Personne ne fait ça. Même pas son personnage. Mais elle revient. Elle a 7 ans d'éclipse qu'elle oublie. Et elle redevient enfant. Et c'est là qu'elle retrouve Heathcliff et qu'elle meurt.
Mais c'est trop tard.
Enfin, trop tard. Elle retrouve Heathcliff. Oui. Mais nous, vous voyez, je crois que tels que nous sommes, nous adultes, nous avons forcément renoncé à cette révolte qui était en nous quand on était petit et qu'on voulait nous chasser de notre enfance et de notre liberté. Et Émilie Brontë, elle, non, elle n'a jamais pu renoncer. Je trouve qu'en cela, elle est différente de tout le monde et extraordinaire. Je ne connais personne qui puisse être son équivalent, vraiment.
Mais vous, Christine Jordi, est-ce que la littérature, qui êtes baignée par la littérature et à qui la littérature a appris toutes ces choses, est-ce que vous diriez que vous avez évité cet écueil? Est-ce que vous êtes
pas
vous-même
du tout.
L'enfance que vous ne souhaitiez pas quitter?
La littérature m'a appris ce que j'avais au fond de moi. C'est au fond de moi. Et je le recherche. Je cherche à comprendre. Mais la littérature m'accompagne. C'est pas elle qui m'enseigne, vous voyez.
On peut terminer, puisqu'il nous reste quelques minutes et que je souhaitais aborder un thème dont vous parlez d'ailleurs également dans l'un de vos livres, c'est la question de l'érotisme. On a dit en première partie de cette émission avec Lydie Salver qu'il n'y avait pas à proprement parler d'érotisme entre les personnages de Wuthering Heights. Et pourtant, vous-même, vous semblez en trouver, mais d'une autre façon, d'une façon peut-être sublimée.
Non, je suis tout à fait d'accord avec Lydie Salver. Je pense que l'érotisme a été tellement loin qu'il est arrivé à cette situation paradoxale que la sexualité est niée. Elle est devenue une flamme, elle brûle en quelque sorte. Nous sommes au-delà de la matérialité. Il faut détruire tous les obstacles.
Alors est-ce que c'est encore de l'érotisme si on est au-delà de la matérialité?
Pour moi, tout à fait. Je ne pense pas que l'érotisme soit dans la matérialité. Et là, je rejoins Bataille, dont on parlait tout à l'heure, et qui parle de la discontinuité dans laquelle nous vivons, et de la continuité de l'être, et qui serait ce que nous retrouvons dans l'érotisme et dans la mort. Et la continuité de l'être, justement, c'est se hisser, mais nous ne le faisons pas, au-delà du morcellement et de la division qu'est notre vie incarnée. Voilà. Donc moi, je crois que l'érotisme est possible et je crois qu'Émilie Brontë a été plus loin que l'érotisme ordinaire. Elle a été au-delà de la chair, au-delà du sang, dans quelque chose qui est pure brûlure, pure flamme.
Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire ici, Christine Jordi, qu'Émilie Brontë, en fait, est une grande mystique et qu'elle a dépassé...
Pas du tout. Excusez-moi, mais alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne vois pas vraiment de mysticisme dans Émilie Brontë, parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lydie Salver avant l'émission, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de volonté de dépassement de soi, ni de sublimation. Elle ne veut que la lande, elle ne veut que le paradis de l'enfance. Elle n'y renonce jamais. On est vraiment... ici-bas. Et là, c'est un enfermement, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure.
Mais oui. Pourtant, il y a ce poème que je suis obligé de vous lire. Bataille le cite, d'ailleurs, c'est un poème d'Émilie. « Mais je ne voudrais perdre aucune souffrance, ni supporter une moindre torture. Plus l'angoisse supplicie, plus vite elle bénit. Et perdue dans les flammes de l'enfer, au brillant d'un éclat céleste, si elle annonce la mort, la vision est divine. C'est le paysage et l'amour. » Il y a quand même cette fin, la vision est divine, qui me faisait dire que peut-être,
c'est
quelque
la mort.
Part, il y avait
il n'y a pas d'au-delà de la mort. Dans le mysticisme, il y a une fusion avec Dieu, ou mettons même avec le paysage. Mais là, elle n'envisage rien au-delà de la mort. Elle est torturée et elle va vers la mort comme la fin. C'est...
Un grand merci à vous, Christine Jordi, d'être venue nous parler d'Émilie Brontë ici dans la compagnie des auteurs. Je rappelle que vous avez publié Promenades anglaises aux éditions Point, c'était en 2008, et que votre dernier ouvrage, Paysages d'hiver, voyage en compagnie d'un sage, a paru lui aux éditions Albin Michel en 2016. Demain, nous recevrons l'écrivaine et universitaire Dominique Barberis pour parler du chef-d'œuvre de Charlotte Brontë, cette fois Jenner, dont elle a préfacé l'édition Folio en 2012. Mais tout de suite, c'est Jacques Bonnafé. Il continue de lire des textes de Babouyek.
Bonjour, algorithme éponyme. Nous écoutons cette semaine Babouyek, qui ne parle pas, verrouillé dans son corps autiste, Hélène, Babouyek écrit lettre à lettre sur des tables. Quand elle se présente dans le livre, introduction, « Je suis né un jour de neige d'une mère qui se marre tout le temps. Je me suis dit, ça caille, mais ça a l'air cool, la vie. Et j'ai enchaîné les galères. J'ai raté la maternelle et toutes mes chances d'être une championne sur les bancs d'école. Pas d'apprentissage, juste être soi-même. Une terreur pour les repères sociaux. » En 1999, j'ai quitté l'institution médico-sociale pour commencer l'apprentissage des règles sociales dans une culture plus ordinaire, ma famille. Très vite est apparue l'idée du « qui est-on » pour faire face à mon identité out of line et trouver comment brancher tous les morceaux. C'était en 2001. En 2006, à force de travailler sans relâche, mon corps a ouvert des portes sur votre monde. L'écriture est sortie de ma tête et a donné un sens à ma vie sociale et culturelle. Poème. Je suis directement entré dans l'hypermodernité, main vidée, cerveau en alerte de saisie d'informations, saturé par les signaux sans marque distinctive de couleur, odeur, bruit, son, lumière, goût, dégoût, plaisir, malheur, bonheur, trouver des limites, belle aventure urbaniste. Émancipé du besoin matériel, rien ne soulève en moi l'envie de bouger mon corps. Je guette les étoiles qui brillent dans ma tête. Babouyek. Pierre Meunier, parlant des mots d'Hélène, sauvé de la confusion par son effort de nous les transmettre, ils surgissent, animés de la force vitale propre aux rescapés. Leur force, ils la doivent à ce chemin incroyablement ardu qui mène du silence le plus épais à la clarté enfin atteinte. Et nous, les faiseurs du monde, dans ce dédale arbitraire, sommes-nous libres, amicalement reliés, ignorants des autres ou dans la file d'attente des cerveaux débranchés? Je suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon, tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite, les oreilles stand-by à la jacasserie humaine, les mains et pieds sens dessus-dessous, les yeux dans les yeux de moi-même, modèle dispersé, gratuitement mis au monde par besoin de casser la mécanique culturelle. Babouyek se décrivant, comme elle est dans le film de Julie Bertuccelli, Dernière nouvelle du cosmos, les mains et pieds sens dessus-dessous, le corps imprévisible, les yeux dans les yeux de moi-même, modèle dispersé gratuitement mis au monde par besoin de casser la mécanique culturelle. Univers à l'envers du décor toilé, imbibé d'hymnes boréales, scintillement musical sans limite qui fait danser les couleurs de tes étoiles, rodéo live dans la soucoupe crânienne autiste. Énigme nihiliste, teinté jour de fête. Hélène Babouyek.
Merci Jacques Bonnafé pour ces extraits de textes poétiques. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.